15h59, on va commencer peut-être comme une devinette. Ils ont l'habitude de se croiser dans certains colloques spécialisés où l'on réfléchit sur le fonctionnement de l'institution judiciaire. Ils ont tous deux en tête, évidemment, cette ténébreuse affaire Althusser qui leur a réciproquement inspiré quelques commentaires éclairés. Ils exercent deux métiers aussi qui forment parfois un couple compliqué au rapport pour le moins ambigu, celui de magistrat et celui d'expert auprès des tribunaux. Et tous deux sont avec nous en direct depuis ce studio pour ouvrir cette seconde partie donc du vif du sujet, le dernier de la saison, Denis Salas et Michel Dubec. Bonjour tout d'abord Denis Salas, vous êtes magistrat qui a enseigné à l'École nationale de la magistrature. Vous venez d'ailleurs de publier, c'est votre actualité littéraire, ça, c'était au printemps dernier, un essai, j'allais presque dire un brûlot, sur ce que vous baptisez le populisme pénal, et intitulé « La volonté de punir », c'est chez Hachette Littérature, on en parlera. Il y a des rapprochements avec ce sujet qu'on va pouvoir faire, surtout dans la dernière partie de cette demi-heure. Et bonjour Michel Dubec. Vous, s'il fallait tirer un ouvrage venant de vous, ce serait plus lointain, en 1992, je crois que ça s'appelait « Crime et sentiments », chacun d'apprécier, c'était au seuil. Vous analysiez un peu le cas Althusser, et puis vous êtes médecin psychiatre et psychanalyste aussi, vous êtes souvent appelé à la rescousse par la justice en tant qu'expert, et vous concernant, c'est la cour d'appel de Paris qui fait appel à vos diagnostics capitaux. Ma première question vous est donc un peu adressée, vous qui avez commis de longs articles aussi fort instructifs sur le cas Althusser, qui vont servir, si vous le voulez bien, un peu à établir la base de notre discussion. Évoquons le premier qui a été publié par la revue spécialisée VST, dont vous ne vous souvenez même plus la signification exacte. Ça a été publié aussi par Nervure. C'était 3 ans après la mort du philosophe en 1994. Et cette date correspondait, on va le voir, plutôt à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. Et ça, on va en parler beaucoup ensemble. Et votre article s'appelait « Althusser, coupable ». Mais pas responsable. Alors avant de rentrer dans une discussion peut-être un peu plus technique, parce que c'est important, sur l'article 64 qui a été remanié, évoquons, pour rester en résonance avec ce que l'on vient d'entendre, et je laisserai aussi l'auteur de ce documentaire, Olivier Chomel, intervenir là-dessus, évoquons ce que vous nommez l'ambivalence revendiquée d'Althusser.
Oui, il est très difficile de débattre de l'article 64 ou de l'article 122.1 qui l'a remplacé. En partant du cas Althusser, parce que le cas Althusser est d'une telle richesse que, comment dirais-je, c'est pas du tout l'exemple type de ce qu'on trouve au quotidien de la psychiatrie et de la justice. Alors, l'ambivalence revendiquée, c'est une ambivalence revendiquée post-mortem de Louis Althusser. C'est-à-dire que de son vivant, il n'a pas revendiqué grand-chose concernant l'acte qu'il avait commis. Bien sûr, il l'a fait auprès de ses amis. Bien sûr, il l'a fait au titre des plaintes qu'il formulait à l'égard de l'article 64 et du non-lieu. Mais, à ma connaissance, il n'y a pas eu de revendication publique d'aller en garde à vue, d'aller en prison, et ensuite d'avoir son procès.
Ni même d'être jugé, vous le dites, je crois, par ses lecteurs, puisque vous évoquez que L'Avenir dure longtemps, une publication post-mortem, qu'il l'aurait voulu ainsi. Je crois que Olivier Chomel ne pourra pas l'infirmer aussi, puisqu'on ne sait pas ça. Mais donc il y avait une volonté curieuse d'Althusser d'écrire, de livrer ses mémoires, de livrer ce témoignage. Vous dites qu'il est plus riche pour comprendre la psychologie de l'assassin, presque celui de Pierre Rivière, non, si je vous ai bien lu.
Ah oui, il est beaucoup plus riche que Pierre. C'est sans commune mesure, je veux dire. Si vous voulez, ce texte-là est un texte qui est tellement riche d'enseignements qui devrait être obligatoire pour tous les experts psychiatres, mais enfin aussi peut-être pour les juristes. Alors je ne me mêlerai pas, ça c'est Denis Salas qui le dira, mais si vous voulez, il y a, dans L'Avenir dure longtemps, une trentaine de pages vers la fin où il expurge en totalité tous les facteurs extérieur et intérieur à lui-même qui ont conduit au passage à l'acte, même s'il était commis dans la confusion mentale. Je veux dire, il fait, depuis l'origine de sa relation à Hélène jusqu'à la fin, il fait la confidence de tous ces sentiments, à la fois d'amour et de haine, comme tout amour d'ailleurs s'accompagne toujours des sentiments de haine, il explicite tout. Un mot quand même, après le documentaire que j'ai entendu. Louis Althusser a effectivement été interné pendant 2 ans à la suite de son crime. Ça a été le plus long séjour en psychiatrie qu'il a connu, sauf qu'il en a connu un très long aussi, c'était en 47. C'est-à-dire que la première fois où il couche avec Hélène, où elle le dépucelle de force, c'est sa première grande crise de mélancolie, et c'est son premier internement, entre guillemets aussi, enfin c'était un internement, en 47, alors qu'il n'avait commis aucun crime. Entre les deux, il y a 18 hospitalisations en psychiatrie. Autrement dit, ce que je dis, c'est très simple, si Louis Althusser a pu faire l'œuvre qu'il a faite, et s'il a pu rester professeur à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, c'est grâce à la psychiatrie.
Moi, je m'adresse aux psychanalystes, alors, puisqu'on se rend compte, là, que dans ce qu'ils nous ont livré avec Yvon Croizier, Olivier Chomel n'a pas pu tout dire. Et en l'occurrence, il y a une grande absente, c'est sa sœur, Georgette, parce que ce qui aurait pu être évoqué dans ce documentaire, pour nous donner des clés de lecture, s'il fallait continuer, et puis après, on va élargir, puis on va parler de cet article 64, c'est le rêve qu'il fait, où il étrangle Georgette, et qu'en fait, on se rend compte que le geste qu'il va faire plus tard, bien plus tard avec sa femme, n'est qu'une répétition de ce rêve-là.
Oui. Il faut savoir une chose, dans les passages à l'acte criminel, des malades mentaux, encore que j'hésite sur ce terme à propos de Louis Althusser, parce que j'ai entendu aussi plusieurs témoignages dans le documentaire que vous avez fait. On traite Louis Althusser de fou à plusieurs reprises. Bon, fou n'est pas un terme que je déteste, mais des folies, il y en a des très différentes. Moi, j'ai des malades qui sont des psychoses maniaco-dépressifs, qui sont tout à fait sains et normaux entre les crises, et qui mènent, il n'est pas le seul à avoir mené une vie totalement normale entre les crises. C'est un type de folie qu'il avait. Autrement dit, ce n'est pas une grande schizophrénie non plus. Il n'y avait pas désagrégation de ses possibilités intellectuelles. Les amalgames qu'on a pu faire entre marxisme, criminel, folie, sont idiots. Voilà, bon, c'est l'idiotie. Alors, l'idiotie collective existe aussi. Bon, ça, je n'y peux rien. Voilà. Donc, alors, tout ça pour répondre à votre question qui est un acte pathologique souffre de la chose suivante, que c'est en général l'acte le plus prémédité qui soit. Parce que l'inconscient dure aussi longtemps que l'avenir.
Donc, en l'occurrence, on se rend compte, et puis en vous lisant aussi, que ce n'est pas l'avenir qui dure longtemps, c'est le passé aussi.
Oui, mais je crois justement que ce titre qu'il a emprunté au général de Gaulle, dit-on, est à prendre effectivement sur ses deux faces. Je veux dire, Louis Althusser, dans son intelligence et dans sa qualité intellectuelle, et dans son côté dialectique, remet en lumière les deux faces de chaque chose. Et il ne cesse de le faire. Et donc, dans l'avenir dure longtemps, si vous voulez, il a ce génie de dire « je suis le plus grand des imposteurs ». Le problème qui est posé, c'est est-ce qu'il n'est pas aussi le plus grand des imposteurs post-mortem ? Est-ce qu'il n'a pas voulu l'être pour l'éternité ? Justement, en revendiquant sa responsabilité et tout en écrivant sur 30 pages, à quel point il n'était pas responsable. Alors, voilà, ça c'est le génie de Louis Althusser.
Alors éloignons-nous du champ de la psychanalyse, ou même de celui de la psychiatrie, retournons-nous vers le juriste, parce que tout à l'heure, Michel Dubec nous a offert une perche qu'on va saisir. Denis Salas, est-ce que c'est cas d'école ? Est-ce qu'à l'école de la magistrature, vous l'enseignez, ce qui s'est passé cette nuit-là ?
Bon, je connais beaucoup moins bien le cas du cerf que Michel Dubec, donc j'ai un regard plus extérieur. Et puis je découvre aussi l'émission que vous avez réalisée. Moi, je suis frappé d'une chose dans ce cas, c'est le traitement totalement atypique dont a bénéficié Louis Althusser et contre lequel il ne cessera de se révolter par la suite.
Mais pas par la radiophonie aujourd'hui. Hein, c'est...
Que vous avez révélé dans l'émission et que j'ai découvert. En particulier pour le droit commun que nous connaissons l'un et l'autre, le devenir habituel d'un criminel, il sera absous éventuellement de ses faits si l'expertise, au cours d'une qui n'a pas été enclenché, à mon avis, correctement dans cette affaire, et le révèle en quelque sorte. Or là, il n'y a eu apparemment ni garde à vue, ni détention provisoire, ni contrôle judiciaire, ni comparution, semble-t-il, d'après ce que j'ai entendu, devant un juge d'instruction dans son cabinet. Ça paraît tout à fait étonnant. Et le sentiment qu'on a en vous écoutant, c'est qu'il a bénéficié d'une sorte de paternalisme, de protection de la part de tous ses amis et de cette fameuse école normale supérieure dans laquelle il enseignait et qui a tissé autour de lui une sorte de cordon sanitaire qui est là peut-être surprotégé. Donc j'ai le sentiment là, il y a une donne très lourde, une pierre tombale. Alors il l'a dit après, le non-lieu était une pierre tombale, mais je me demande si cette pierre tombale ne s'est pas abattue sur lui bien plus tôt que cette fameuse expertise contre laquelle il s'est révolté par la suite, par cette protection qu'il a en quelque sorte voulu l'épargner de la justice pénale et de la violence que ses amis pouvaient redouter à l'égard de ce grand philosophe qu'il était et qui ne méritait peut-être pas un traitement indigne de lui.
Alors peut-être que les auditeurs ont été surpris tout à l'heure par un curieux, étrange bruit qui provenait peut-être d'une manifestation ésotérique du fantôme d'Althusser, mais bon, on me fait signe que tout va bien derrière la vitre en technique, donc on va continuer comme si rien n'allait se passer de désagréable. Et vous venez d'évoquer ce qui est habituellement, Denis Salas, le long chemin qui mène soit aux assises, soit à l'asile, et puis de nous reparler de là, de la figure du non-lieu. Ça me demanderait peut-être d'être précisé, parce que tout à l'heure même, Françoise Rudinesco faisait, en évoquant le non-lieu, une certaine erreur d'analyse, mais qui correspondait plus à la façon dont on l'a traditionnellement de l'assimiler, nous.
Oui, parce que le non-lieu, bon, c'est ce qu'on appelle l'article 64 de l'ancien code pénal, avant la grande réforme de 1994, il n'y a ni crime ni délit si l'individu est en état de démence au moment des faits. Donc c'est on écarte totalement toute culpabilité et toute peine. Donc la personne échappe à la fois à la culpabilité, donc à la responsabilité pénale, et deuxièmement, à la peine qui pourrait effectivement encourir. Ensuite, il y a une réforme en 1994 qui a introduit l'abolition totale du discernement, le cas du non-lieu, et puis l'altération partielle du discernement qui laisse apparaître effectivement la responsabilité et puis la peine dont on tient compte effectivement de l'atténuation de responsabilité éventuelle qui pourrait résulter d'une expertise.
Donc si je vous comprends bien, voilà, tout à l'heure, ce que nous disait Elisabeth Rudinesco, non pas François, c'était que le non-lieu, ça voulait dire que le crime n'avait pas eu lieu, ce qui n'est pas le cas pour la justice.
Depuis 1994, et puis même il y avait des hypothèses où la responsabilité était reconnue. Dans le cas d'Althusser, ce qui a été décidé, c'est un non-lieu, donc ni responsabilité, ni culpabilité, ni peine. Ce qui me frappe beaucoup, de ce point de vue-là, c'est l'appel d'Althusser à la justice pénale. Et quand on regarde ses écrits, c'est une justice pénale singulière à laquelle Althusser aspire. C'est pas du tout les geôles de la garde à vue. C'est pas du tout la prison et la promiscuité que ça peut impliquer. C'est une scène d'explication publique à laquelle aspire Althusser. Donc le procès, la possibilité pour lui de témoigner devant la loi, donc devant un tiers, et non pas devant lui-même ou devant sa compagne, en manière imaginée. Et c'est cela qu'il demande à tout prix. Et c'est ce moment du procès qu'il isole comme étant effectivement celui auquel il aspire et celui vers lequel il se tourne. Et c'est cela qui lui a manqué, plus que l'ensemble de la justice, qu'il manifestement connaît très mal.
On peut se poser de multiples questions sur la construction de son autobiographie, écrite en 85, publiée post-mortem en 92, sur ses mensonges construits, sur quelques erreurs dont une est particulièrement naïve et elle en recouvre d'autres. C'est qu'il considère que, dans son cas, une peine éteindrait la faute. C'est-à-dire qu'après avoir purgé une peine d'emprisonnement, on cesserait de lui reprocher le crime qu'il a commis. Ça, c'est complètement naïf, puisque en général, quand on sort de prison, on n'est pas lavé du tout par la société, veux-je dire. Il n'y a pas de pardon ni d'oubli de la part de nos contemporains.
Actuellement, on peut effectivement douter de la survenue d'un pardon ou d'un oubli, compte tenu de la société de transparence dans laquelle on vit. Mais Althusser, ce que je veux dire, c'est qu'Althusser n'a pas été placé dans une situation qui lui permettait d'envisager une peine et, par la suite, d'élaborer sa propre souffrance ou sa propre rapport à la culpabilité qui pourrait le conduire vers un pardon. Cette trajectoire-là, manifestement, lui a été interdite. Et il s'est enfermé, me semble-t-il, comme on l'a dit tout à l'heure dans l'émission, dans une sorte de culpabilité impossible. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est le récit autobiographique. Le récit autobiographique n'est pas une déclaration ou un témoignage dans un tribunal. Ça n'a strictement rien à voir. Le récit autobiographique est une construction personnelle dont il est l'auteur et le metteur en scène. Donc ce n'est pas du tout une confrontation avec la loi. Effectivement, elle a été manquée. Je pense que devant élaborant sa propre autobiographie, c'est une sorte de nouvelle mise en scène qui négativement, signifie l'impasse dans laquelle il se trouvait, faute d'avoir été confronté à au moins une déclaration de culpabilité qui lui aurait renvoyé sa responsabilité.
Mais Michel Dubec, clôturons un peu sur ce thème, j'allais dire, de la parole confisquée, telle que vous l'avez analysée.
J'aimerais vous donner quelques éléments d'information simples, parce qu'il y a tellement d'erreurs qui sont propagées à propos du non-lieu de l'article 64 ou même de l'article 122.1 d'aujourd'hui, que je vais vous donner quelques éléments d'information. Il y a une ancienne qui est toujours colportée, qui m'énerve diablement, c'est « le crime n'a pas eu lieu ». C'est ça que ça veut dire le non-lieu. Pas du tout.
Oui, c'est non. Ce que je vous rappelais tout à l'heure. Oui.
Non-lieu, ça veut dire non-lieu à poursuivre. Il y a énormément de causes judiciaires pour que les magistrats décident qu'il y ait un non-lieu. Hein, c'est un non-lieu à poursuivre. Et donc, en dehors de l'article 64, est très, très minoritaire sur les origines les causes des non-lieux. Hein, ça doit être du 2%. À part ça, les non-lieux...
Ça ne cesse de dégringoler.
On va évoquer quelques
chiffres. Les non-lieux, il y en a énormément. Maintenant aussi, quand même, je voudrais vous souligner justement à propos de la privation de parole par l'expertise. Pourquoi n'a-t-on pas demandé une contre-expertise ? Alors, aujourd'hui, la procédure est différente. Alors, je vous donne les deux versions. À l'époque, c'est-à-dire en 1980, l'avocat de Louis Althusser pouvait demander une contre-expertise. C'est le juge d'instruction qui décidait. Et il pouvait lui dire non sans motiver son refus. Mais l'avocat de Louis Althusser ne l'a pas demandé. Entendons-nous bien, personne n'a demandé une contre-expertise. Aucun ami de Louis Althusser ne l'a demandé. Ce que disait Denis Salas tout à l'heure, comme cette école normale dans laquelle, effectivement, Louis Althusser et sa femme Hélène ont vécu 32 ans dans le même appartement, ont été extrêmement protégés par le docteur Etienne, enfin, avec beaucoup de bonne volonté. Je ne méconnais pas les avantages et l'héroïsme de l'amitié parfois, hein, parce qu'il fallait être un ami héroïque auprès d'Althusser dans certains jours. Bon, ils l'ont été, très bien, mais qu'ils ne se dédouanent pas de ce qu'ils ont été en reportant ça sur la psychiatrie. Donc, il a été privé de parole, oui et non. Louis Althusser...
Mais il n'a pas voulu la prendre pendant plusieurs années aussi. Hein.
Oui.
Il y a un stimulus en 85 qui le détermine à écrire ce texte-là,
oui.
Très très
et
rapidement.
Il n'a pas voulu la prendre comme il n'a pas voulu s'évader du stalag. Il l'explique très bien aussi.
Mais il reconnaît
aussi sa lâcheté.
Il reste
5 ans dans un stalag à partir du moment où il sait exactement comment il pourrait faire pour s'échapper sans absolument être poursuivi. Mmh. C'est étonnant. Et donc, si vous voulez, là, c'est pareil. Il savait, peut-être pas dans les 3 mois qui ont suivi, et devait-il encore être assez confus, etc. Donc, je ne dis pas du tout qu'il aurait dû, parce que c'est toujours facile de refaire l'histoire. Je ne le dis pas. Mais les détracteurs... autre que Louis Althusser de l'article 64, se sont-ils élevés de son vivant au moment de la procédure? Vous savez, une phrase, une simple phrase dans n'importe quel journal de Michel Foucault pour dire « il faut le juger, il ne faut pas qu'il a... » Je veux dire, aurait eu un retentissement extraordinaire. Cette phrase a-t-elle été écrite ou prononcée? Jamais, jamais.
Allons-nous pouvoir, c'est la question que je me pose maintenant, Michel Dubec, nous échapper du cas Althusser et de ses commentaires qui sont agréables à plaquer, là, pour aller un peu plus dans les généralités et dire ensemble ce qu'il s'est passé avec la refonte du Code pénal en 1994. Et donc, qu'est-ce qu'il advient de cet article 64 remanié qui devient 122 alinéa 122.1, pardon, excusez-moi.
Oui, 122.1 avec deux alinéas.
Avec deux alinéas.
Voilà, un premier alinéa qui dit...
Et vous êtes très déçu sur ce qui se passe, hein, et sur la tenue des débats, j'ai l'impression. Alors, on glisse vers quelle notion? Toute cette notion importante-là de responsabilité, je crois.
Alors, effectivement, il y a aujourd'hui deux alinéas. Le premier qui est celui de l'irresponsabilité complète et qui est analogue en d'autres termes, peu importe, que l'article 64. Et un deuxième alinéa qui maintient la responsabilité relative en disant qu'il y a des circonstances dont le jury doit tenir compte. Alors, ce deuxième alinéa est-il un progrès ? Alors, je vais peut-être décevoir Denis Salas, mais ce deuxième alinéa est un extraordinaire retour en arrière et il date de 1905. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez...
C'est l'art chaumier.
Absolument. Il faut savoir qu'il y a les articles de loi... Et puis, il y a les procédures, les articles de la procédure. Et puis, il y a les circulaires. Et tout ça est important dans l'application. Parce que ce qui est important, ce n'est pas seulement la loi. La loi, c'est important pour les intellectuels. Et puis, pour le peuple, pour le tout un chacun.
Pour les juristes.
Et pour les jugeables surtout. Oui. Ce qui est important, c'est l'application de la loi. C'est qu'est-ce qu'on va faire de vous. Bon. Et donc, en 1905... Comme l'article 64 finissait par être inapplicable dans sa loi du tout ou rien, je veux dire, les juristes, la chancellerie de 1905 n'étaient pas plus idiotes qu'aujourd'hui. Et donc les magistrats de l'époque, s'apercevant qu'ils ne pouvaient pas manier uniquement le tout ou rien, ont introduit cette circulaire introduite par Chaumier en 1905, qui disait tout simplement... Est-ce qu'il a des anomalies mentales ou pas? Et est-ce que ces anomalies mentales entraînent une atténuation de la responsabilité ou pas? C'est l'article 122, deuxième alinéa. C'est la même chose. Tout le problème, c'est que ce ne sont pas ces lois successives. Tout le problème, c'est l'état des prisons et l'état de la psychiatrie.
Et alors voilà, parce que vous imaginez bien qu'il y a une thématique qui nous a intéressés pour prolonger justement ce documentaire. C'est ce véritable scandale qui concerne l'incarcération des fous. Il y a des chiffres qui circulent. Denis Salas, vous allez pouvoir peut-être les actualiser. On va les retrouver dans La volonté de punir que vous venez de publier. Il semblerait que 17% de la population carcérale soit composée de malades mentaux en 2000. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, mais on avance même le chiffre effarant de 30%. Et en tout cas, sur les non-lieux, il y a des chiffres précis qui nous font dire qu'on n'en est plus aujourd'hui à juger de la même façon.
On apprend les chiffres sur le nombre de malades mentaux en prison dans les rapports parlementaires sur la récidive et sur les individus dangereux. Comment voyons-nous les malades mentaux, notamment ceux qui sont en prison, en lisant un certain nombre de rapports, de textes tout à fait officiels qui pointent le danger que ces individus font peser sur notre société et sur les victimes. C'est un de mes thèmes de recherche dans mon livre. Nous voyons aujourd'hui ces personnes, non pas de l'intérieur. J'étais frappé tout à l'heure par cette vision psychologique interne, cette dimension relationnelle, cette relation entre Louis et Hélène. Mais ce n'est pas du tout comme ça que nous voyons aujourd'hui ces passages à l'acte gravissimes. Nous les voyons du point de vue des victimes, pour le dire un peu brutalement.
Oui, non, mais c'est la grande thèse que
vous développez. Et avec ce regard-là et aucun autre regard. Nous avons pris ce parti-là aujourd'hui. Et du coup, l'objet que nous avons en face de nous est totalement reconstruit par le regard que nous portons sur lui.
Donc on a l'impression que la loi aujourd'hui ne protège plus les fous. S'il fallait résumer, elle nous protège des fous.
Exactement. Le regard s'est renversé. Allons jusqu'au bout du fameux deuxième alinéa qu'on évoquait tout à l'heure. Quand on dit altération, le juge en tient compte, donc, pas de non-lieu, mais on en tient compte dans la peine, très généralement, on en tient compte pour aggraver la peine. Pour précisément multiplier le nombre d'années de prison, les mesures dites de sûreté, les contrôles judiciaires, les délinquants sexuels qui sont maintenant gérés par des bracelets électroniques, etc. Donc vous avez un système, ce que Foucault appellerait un archipel carcéral, qui autour de la prison, finalement, dessine d'une certaine manière un système de contrôle qui, effectivement, donne le sentiment d'être protégé de ces individus quand ils sortent de prison.
Donc on arrive à ces chiffres-là, s'il fallait à nouveau les alors, évoquer oui. et vous les citer. On est passé de 17% de non-lieux en 1984 à 0,17% oui. en 1998. Oui. Vous dites même, on évalue à 30% le nombre de malades mentaux en prison.
Oui, les chiffres officiels enfin, qui reviennent, la presse va plus loin, mais les chiffres donnés par les rapports, c'est environ 30% de personnes ayant des troubles mentaux en prison. Et parallèlement, le nombre de non-lieux ne cesse de diminuer. On l'évalue aujourd'hui à 0,17%. C'est les chiffres.
Oui, mais alors question au magistrat, à qui la faute? Est-ce au juge Ou est-ce à ces mêmes experts convoqués par le juge ?
Écoutez, moi je ne sais pas ce qu'en pense Michel Dubec, mais je constate un premier point qui est l'effondrement de la prise en charge de la psychiatrie publique à l'égard de ces populations et une sorte de déplacement voulu par les textes, par la loi, de la gestion de ces individus dits dangereux ou malades, tout ce que vous voudrez, vers un secteur public de la psychiatrie pénitentiaire. Donc on internalise la psychiatrie dans la prison, qui devient en lui-même un lieu de traitement, ce qu'on appelle les SMPR, enfin les services spécialisés dans la psychiatrie pénitentiaire. Donc il y a ce qu'on appelle aujourd'hui une fonction asilaire de la prison. La prison, finalement, assume à la fois la tâche de rassurer la société de victimes dans laquelle nous vivons et la tâche pratiquement impossible de réhabiliter ou de soigner les condamnés qui s'y trouvent.
Alors la question, puisque vous évoquiez la présence de Michel Dubec dans un excellent numéro, c'était le 13e de la Revue française de psychiatrie il y a 4 ans, Maître Leclerc vous interpellait, vous, expert psychiatre, en disant, quand on les interroge, quels sont les premiers à finalement avouer qu'ils s'en remettent volontiers à l'institution pénitentiaire pour garder les fous qui ne seront...
Je crois qu'il faut, si vous voulez, distinguer deux choses très très différentes. Dans les 30% que vous évoquez, c'est-à-dire des détenus qui présentent des troubles mentaux, il n'y a pas 30% de malades mentaux. Autrement dit, si vous voulez, vous prenez n'importe qui, vous l'incarcérez, notamment si vous l'incarcérez avec des conditions d'isolement importantes, il va présenter des troubles. Donc, dans ces 30%, vous avez tous ces gens-là, c'est-à-dire les troubles générés par la prison. Il y a aussi des troubles qui sont le fait d'individus qu'on a toujours appelés psychopathes, déséquilibrés psychiques ou autres, qui ont toujours voyagé entre l'hôpital et la prison et qui sont des grands instables et impulsifs et qui font le lit, effectivement, de la criminalité. Mais tout cela ne sont pas des fous, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, et n'ont rien à voir avec un cas comme Louis Althusser. Les cas qui ont à voir avec l'exemple de Louis Althusser, on peut les chiffrer grosso modo à 5%. Alors, c'est déjà un scandale que ce 5% devienne moins de 1%. Mais ça vous rétablit quand même un petit peu les chiffres. Je crois qu'il ne faut pas trop jouer avec...
Et sur la question des responsabilités.
Alors, donc... Le problème, effectivement, aujourd'hui, il y a un problème. Alors, vous demandiez à qui la faute tout à l'heure, à Denis Salas, magistrat ou expert, les deux, en général. C'est-à-dire qu'effectivement, les magistrats ont toujours eu à cœur de juger le plus possible aujourd'hui et le plus loin possible, vers le haut, les personnages de l'État, les personnages publics, et vers le bas, les fous. Voilà. Bon, il y a cette tendance de la justice pénale, quand même. Il y a la tendance des experts qui font avec ce qu'ils ont. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans des conséquences pratiques. Si nous n'avons pas ou hospitalisé ou interné des malades mentaux, nous ne pouvons pas. On ne nous laisse pas faire un article 122.1 premier alinéa, car il n'y a plus de lieu, ou il y a beaucoup moins de lieux d'hospitalisation de ce type de malade.
Denis Salas, je vais vous laisser clôturer pour peut-être donner envie aux auditeurs de vous retourner, de se retourner vers votre livre. Dans le cycle répressif qu'on traverse et que vous auscultez si bien, finalement le traitement qui est réservé aux fous par l'institution n'est qu'un des maillons de ce qui vous fait peur aujourd'hui, ce que vous dénoncez.
Oui, parce que le regard que nous portons sur la déviance ou la délinquance a totalement changé aujourd'hui. La politique de traitement que nous avions très, très fortement affirmée dans l'après-guerre. Dans l'après-guerre, les magistrats pouvaient écrire des ouvrages qui s'appelaient « Nos frères, les récidivistes ». Donc il y avait un rapport de fraternité avec cette violence qui nous menace, qui a totalement disparu. J'ajoute que la délégitimation de la psychiatrie publique dans sa capacité à générer de la sécurité a effectivement alourdi le dossier. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes dans une fuite en avant où la prison semble investie d'une certaine manière de cette tâche impossible de nous rassurer et de nous protéger.
Bon, moi il faut vous l'avouer, mais c'est chaque semaine à la même heure cette impression de répétition qui me ferait presque penser que j'ai glissé à mon tour dans la folie, mais il faut terminer une nouvelle fois notre discussion en précisant que on n'a eu malheureusement pas du tout le loisir d'en épuiser tous les contours. On a tout de même considéré, il faudrait considérer qu'il aurait été difficile de le faire en 30 minutes, hein, 30 petites minutes que je vous remercie cependant, Denis Salas et Michel Dubec, d'avoir contribué à rendre lumineuse sur un sujet plutôt sombre. Au nom de toute l'équipe du Vif du Sujet, puisque c'est la dernière, l'équipe c'est Christine Gedge et Yvon Croisier, François Test, Irène Omelianenko, Olivier Chomel, Simon Guibert et Michel Pomared, ainsi que Christophe Deleu, je vous dis au revoir à la rentrée prochaine, qui est programmée, sauf irruption inopinée d'un fait divers calamiteux, dans nos agendas le 30 août prochain à la même heure de 15h à 16h30. Nous prévoyons d'ailleurs une rentrée sur les chapeaux de roue en déroulant l'histoire du roi de la belle, Michel Vaujour, qui s'apprêtera alors à publier ses mémoires après 30 ans de prison. Mais n'avançons pas trop sur ce terrain-là, indiquons simplement que le documentaire d'Olivier Chomel sur le passage à l'acte de Louis Althusser sera rediffusé sur cette antenne dans la nuit de jeudi à vendredi prochain, de 1h à 2h du matin, comme vous en avez l'habitude maintenant. Indiquons aussi que cette émission est réécoutable toute la semaine sur notre site internet franceculture.com à la rubrique du Vif du Sujet. Voilà, c'est un site qui contient tous les repères bibliographiques, dont votre ouvrage, récemment publié chez Hachette Littérature, Denis Salas, La volonté de punir, essai sur le populisme pénal. Voilà qui est dit, je m'autorise à vous souhaiter d'agréables vacances présentes pour ceux qui en ont la chance, et puis d'y être déjà, et puis à venir pour ceux qui doivent encore patienter un peu. Cette émission a été réalisée par Yvon Croisier, et la documentation Christine Gedge, stagiaire Paul Millot à la console de diffusion, y trouver les mains agiles de Jean-Frédéric, et puis Yvon Amar, maintenant c'est à vous, sans jeu de mots, oiseau de ma part pour cette dernière.
Pour la dernière, vous n'avez pas trouvé un jeu de mots oiseau, moi qui m'attendais. Écoutez, on se retrouvera peut-être donc le 30 août pour un nouveau jeu de mots. En tout cas, Alexandre Héros et moi qui vous souhaite d'excellentes vacances et à bientôt.
À très vite.